on va parler effectivement de la résurrection. Et donc en m'appuyant sur le chapitre 28 de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, le verset 7, « Il vous précède en Galilée ». Je vais mettre l'accent sur la Galilée ce matin. Au verset 7, il dit « Allez ». L'ange dit aux femmes qui étaient là, « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Il vous précède en Galilée. » Et le choix de Jésus de donner rendez-vous à ses disciples en Galilée, après sa résurrection, c'est quelque chose d'important. Il aurait pu donner rendez-vous à Jérusalem, mais il donne rendez-vous en Galilée, au nord d'Israël. Il y a plusieurs significations possibles, sur le plan théologique, sur le plan symbolique et pratique aussi. Alors quand on retourne un peu aux origines, la Galilée, c'est la région où tout a commencé pour Jésus et ses disciples. On sait que Jésus est né à Nazareth, Nazareth en Galilée. Et c'est là où il a appelé ses apôtres. C'est là où il a prêché. C'est là où il a fait des miracles. Et il a formé sa communauté là-bas. Et en les renvoyant en Galilée, c'est un peu comme s'il leur disait « Revenez à la source, là où vous avez appris à marcher avec moi. » Il veut leur dire « Mais c'est un nouveau départ, un recommencement de la mission. » C'est aussi le symbole d'un message universel. La Galilée était appelée Galilée des nations, car c'était un carrefour de culture beaucoup plus mêlé que Jérusalem. Et l'expression « Galilée des nations », certaines versions parlent de Galilée des gentils. Gentils, les païens, quoi, en fait. Ça vient d'un passage biblique très important, cette expression « Galilée des nations », qui avait une portée symbolique, prophétique, et qui éclaire bien pourquoi Jésus avait choisi cette région comme point de départ de sa mission et de la révélation après sa résurrection. Ésaïe, chapitre 8, verset 23, c'est là où on a trouvé cette expression « Galilée des nations ». Puis il regarda vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voici une grande lumière. Vois une grande lumière sur eux, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La Galilée des nations, c'est Ésaïe qui en a parlé depuis longtemps. Je me souviens à Noël, notre aîné, ils étaient tout petits dans l'église, on chantait une grande lumière, et lui, il appuyait beaucoup, Timothée, il appuyait sur ça, tout petit. Une grande lumière éclaira la nuit. Et les anges annoncèrent. Ça, une grande lumière. Ésaïe qui avait déjà expliqué, enfin parlé de ça. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est-à-dire le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, c'est la Galilée des nations. Et ce peuple-là a vu briller une lumière. Ce passage donc, est également cité dans Matthieu, Matthieu au chapitre 4, versets 13 à 16, lorsque Jésus a commencé à prêcher en Galilée. Il a cité ce passage-là. Pourquoi des nations? Parce que c'était une région de mélange. Mélange de culture, mélange d'ethnie, la Galilée était une région donc, qui est située au nord d'Israël. Moi, je ne suis jamais allé en Israël, mais j'ai vu sur la carte. Et limitrophe des territoires païens. Il y avait la Phénicie, on cite aussi la Syrie, voyez, qui entourait cette partie d'Israël. Et depuis les invasions des Assyriens, eh bien, cette zone a été repeuplée par des non-juifs. Tu vois, d'où ce surnom de Galilée des nations. Parce que les non-juifs, avec les guerres, avec les déportations, il y a eu tout un mélange de peuples. Donc, c'était des cultures, des langues, des religions différentes. On trouvait des juifs fervents. On trouvait aussi des hellénisés, c'est-à-dire des hellénites, des gens qui ont eu la culture un peu hélène, grecque, ça c'est les grecs ça. Et puis aussi les païens, il y avait des païens, il y avait des commerçants étrangers. C'était vraiment un fourre-tout, entre guillemets, tout y était. Justement, c'est là Nathanaël qui disait ça à Philippe. Et pour les élites de Jérusalem, eh bien, c'était une région qui n'était pas pure. Parce qu'avec tout ce mélange-là, c'est pas pur. C'est presque en marge de la vraie foi. Parce que la vraie foi se trouvait à Jérusalem. Donc parler de Galilée, c'est pas vraiment... C'est pas porteur, c'est pas vraiment super, quoi. Mais c'était un lieu de ténèbres visité par la lumière. Et Isaïe annonce qu'une lumière se lèvera dans cette région périphérique. Donc, là où on ne l'attendait pas, tu vois, donc c'est fou ça. Dans Isaïe, plusieurs années, avait vu ça. Et pour Matthieu, eh bien, c'est un signe messianique très fort. C'est pour ça que Matthieu, il reprend ça. Il veut dire que le salut ne commence pas à Jérusalem, mais dans un lieu marginal. Un lieu universel, un lieu mélangé. C'est ce que Matthieu est en train de dire. Et c'est dans cette Galilée des nations que Jésus a commencé à annoncer. Convertissez-vous, Matthieu chapitre 4, quand vous lisez, Jésus a commencé à annoncer ça. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est là où il a commencé son ministère, en Galilée. Et le fait que Jésus donne rendez-vous en Galilée, à ses disciples, après sa résurrection, est vraiment symbolique, parce que c'est la terre de sa première annonce, de l'appel de ses disciples, je l'ai dit, c'est la terre de mission pour les nations. C'est aussi un message clair qu'il est en train de dire. Le royaume de Dieu n'est pas réservé simplement à Jérusalem et aux Juifs, mais ça s'étend à tout le monde entier. C'est le symbole, ça. C'est ce qu'il veut dire. Sur le plan géographique et même historique, Jérusalem était donc la capitale religieuse et politique. C'est là où se trouvait le temple et le Sanhédrin. C'est à Jérusalem. Donc c'était le général. Mais Galilée au nord, donc c'était... Ce n'était pas du tout considéré, c'était une région donc rurale, mélangée, un peu marginale, avec les païens, quoi. Mais pourquoi aller en Galilée après la résurrection? Jérusalem, c'est aussi, on peut avoir une autre pensée en disant que c'est le lieu de la crucifixion, le lieu de tension politique et religieuse. Il faut dire qu'on cherchait encore Jésus là-bas. Il y avait quand même une tension à Jérusalem, hein, après qu'il est mort et tout ça. Donc, c'était aussi bien d'aller en Galilée, où Jésus avait plutôt des liens humains très forts. Parce qu'il y est né, c'est le berceau de sa mission. Et on peut aussi dire que les disciples seraient en sécurité, vous voyez, par rapport à Jérusalem. Ils seront un peu moins surveillés qu'à Jérusalem. Peut-être avec toutes ces raisons, ce sont des raisons qu'on peut imaginer, hein, que c'est pour ça peut-être aussi qu'il a donné rendez-vous à ses disciples là-bas, en Galilée. Et du point de vue théologique aussi, il y a quelque chose d'important qu'il faut noter, c'est que Jésus déplace là le centre de la foi. Je m'explique. Parce que le temple, c'était à Jérusalem. Et le temple était vu comme le lieu de la présence divine. Parce que Dieu était dans le temple. Dieu vivait dans le temple. Mais après la résurrection, Jésus lui-même devient en quelque sorte le temple vivant. Donc quelque chose s'est déplacé. Jean chapitre 2, verset 21, 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parlait du temple de son corps. C'est pour ça que le temple ici, qui était à Jérusalem, qui représentait la présence divine, s'est déplacé maintenant en Jésus lui-même, qui est le temple. Donc, aller en Galilée, c'est déplacer le centre sacré hors du temple. La foi chrétienne n'est plus liée à un lieu précis, mais à une relation vivante avec le Christ. C'est pour ça que la résurrection est très importante pour nous, ça change tout. Donc la Galilée étant appelée Galilée des nations, dans Ésaïe 9, c'est prophétique et ça montre aussi l'ouverture du salut aux païens. C'est ça, le salut vient aussi aux païens. Et en choisissant Galilée, Jésus indique que la mission s'adresse à tous les peuples, pas simplement aux Juifs de Jérusalem. Ça s'adresse à tous les peuples. Le salut est pour tous les peuples. Et Jésus, en donnant rendez-vous effectivement aussi en Galilée, veut rassurer les disciples. Parce que vous voyez, après, ça, ils étaient quand même traumatisés. Hein. Après que Jésus a été crucifié, tout ça, ils étaient un peu dispersés. Certains ont repris leur boulot, comme Pierre, qui était pêcheur, a repris son travail de pêcheur et tout ça. Et le fait de les envoyer chez eux, en Galilée, c'était aussi une manière de les restaurer, de les rassurer, de les remettre dans un lieu familier, vous voyez. C'était un peu pédagogique, hein, une sorte de reset spirituel. Tac, on reboot spirituellement, tu vois, et on remet les pendules à l'heure pour repartir, vous voyez, parce que c'est là où tout avait commencé. Et l'évangile de Matthieu est très clair. Hein. L'ange a dit aux femmes, Jésus vous précède en Galilée. Allez dire aux disciples que je les précède en Galilée. Et Matthieu aussi met l'accent sur la grande scène de la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là où il a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc Matthieu, lui, met l'accent effectivement sur la Galilée. Et l'évangile de Luc, quand vous lisez, lui, Luc met l'accent sur Jérusalem. Parce que, bon, il parle de Jésus ressuscité qui apparaît à ses disciples dans cette ville et qui leur dit « Attendez ». Attendez à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit. Luc met l'accent là-dessus. Alors, peut-être que Luc est centré sur le temple. Il est resté centré là sur le temple. Et puis, c'est là où il a commencé les actes des apôtres aussi. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres, Luc. Donc, son histoire tourne autour de Jérusalem. Donc, il a plutôt mis l'accent là-dessus. Jean, lui, il a parlé des apparitions à Jérusalem, quand vous lisez Jean chapitre 20. Et puis, dans Jean chapitre 21, il parle aussi d'une apparition en Galilée, au bord du lac. Bon, Marc, lui, il trouve aussi la mention d'un rendez-vous en Galilée, Marc chapitre 16, verset 7, il parle aussi de ça. Ça montre que, vous voyez, chaque évangile, évangéliste a interprété le sens de la résurrection selon sa théologie propre, on va dire. Parce que Matthieu et Marc ont parlé de la Galilée pour montrer l'ouverture, la continuité avec le ministère. Et puis Luc et Jean, eux, ont mis l'accent sur Jérusalem, peut-être pour souligner aussi la promesse de l'Esprit qui devrait venir. Le temple à Jérusalem, c'est un symbole, comme je l'ai dit, de la présence divine. Et dans le judaïsme, le temple, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Dieu habite dans le temple au milieu de son peuple. Le temple est très important. C'est le lieu où on fait des sacrifices. C'est le lieu où on prie. C'est le lieu où on fait des expiations, donc des sacrifices où on verse le sang et tout ça. C'est là où on fait la fête aussi, autour du temple. Et il y avait un seul temple à Jérusalem. Et c'était là Jérusalem qui centralisait toute la foi juive, parce que le temple était là. Ça, c'est le centre même. Et vous vous souvenez quand le temple, bon, on n'était pas là, hein, a été détruit en 70 après Jésus-Christ, c'était un cataclysme spirituel. Le temple détruit. Vous imaginez? Mais Jésus, comme on a lu dans Jean chapitre 2, est déclaré comme nouveau temple. C'était une déclaration prophétique qu'il faisait. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de son propre corps, qui était le temple. Détruisez-le. Mais les disciples, les gens n'avaient pas compris, les autorités. Bon, attends, mais nous, combien d'années on a mis pour construire ça? Et toi, en 3 jours, tu vas détruire et reconstruire. Mais Jésus, effectivement, parlait de son corps. Jésus s'identifie lui-même au temple. Et c'est pour ça qu'il avait des problèmes avec les autorités religieuses. Hein. S'identifier au temple, dit que c'est toi le temple. Mais en fait, la résurrection, c'est ce moment où le temple, le corps de Christ, détruit à la croix, s'est relevé. C'est ça, la résurrection. Le temple, c'est-à-dire le corps de Christ, à la croix a été détruit, mais la résurrection est venue. Ça dit que le temple est reconstruit, il est ressuscité. Et Matthieu disait d'ailleurs dans le chapitre 12, verset 6, que Jésus est plus grand que le temple. Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple, parlant de Jésus. Donc Jésus se présente comme supérieur au système culturel. C'est choquant à l'époque. Dire qu'il est plus grand que le temple, en plus à Jérusalem, dire ça, les gens n'ont pas compris. Hein. Mais il faut dire que Jésus n'était pas venu détruire la foi juive. Non, non. Mais il voulait la réorienter vers lui-même. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens pensent que c'est fini. Non, la foi juive, elle est là. Et Jésus n'était pas venu la détruire. Non, pas du tout. Mais il veut réorienter. Vous voyez, cette foi-là, sur le temple vivant, qu'est lui-même Jésus. La résurrection, c'est une nouvelle habitation de Dieu. Jésus devient pleinement glorifié après la résurrection. Et il manifeste la présence divine partout. Partout, ce n'est plus dans un seul lieu, mais partout, partout. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui croient en Jésus deviennent aussi des temples. C'est intéressant. Ceux qui croient en Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Après la Pentecôte, l'Esprit habite dans les croyants eux-mêmes. L'Esprit de Dieu vient habiter. Donc, c'est une conséquence directe de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Le fait que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous après la Pentecôte, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, il dit « J'irai et je vous enverrai le Saint-Esprit ». conséquence de sa résurrection et de son ascension, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous aussi, vous êtes devenus le temple, l'habitation de Dieu. C'est pour ça, pour nous, les protestants, on va dire, en général, ce n'est pas le lieu où on fait le culte qui est important. C'est bien d'avoir un bâtiment, mais ce n'est pas forcément le bâtiment. Dieu habite en nous. C'est ça qui est important. Dans 1 Pierre aussi, chapitre 2, verset 5, « Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc l'Église elle-même devient un temple spirituel dont le Christ est la pierre angulaire. Donc nous sommes des êtres vivants. Ce n'est pas des pierres, on n'est pas des objets, ce n'est pas le matériel, le physique, la maison, l'église bâtie, le bâtiment. Mais nous formons un temple, nous formons la communauté, l'église, là, nous formons le temple. Édifiez-vous pour former une maison, on forme une maison spirituelle. Le temple physique est dépassé. Il n'est pas méprisé. Attention, Jésus n'a pas méprisé le temple physique. Jésus respecte profondément le temple parce qu'il y allait quand il était là. Il allait dans le temple, il célébrait les fêtes, il enseignait là, il priait dans le temple. Mais c'est l'instrumentalisation du temple qu'il critiquait. Mais il respectait. Et Matthieu 24 a annoncé la ruine. Vous voyez, du temple, c'est pierre sur pierre, vous ne verrez plus pierre sur pierre ce temple-là. Donc, ce n'est pas pour se réjouir qu'il faisait ça, mais Jésus voulait dire que c'est une fin d'époque.
Yes, sir.